J'espère que tout le monde a bien mangé, que tout le monde s'est bien restauré. On va enchaîner avec la troisième séquence, la première de cet après-midi, intitulée Cap sur la pêche durable. Donc seront abordés au cours de cette séquence les thèmes de la pêche durable et de la labellisation. On s'interrogera également sur l'avenir de la pêche en Normandie et sur le point de vue du grand public sur la question.
Donc pour démarrer cette troisième séquence, nous allons inviter Fatima et Manon à nous rejoindre. Elles vont nous présenter leur travail sur l'impact écologique de la pêche sur l'environnement marin. Donc Manon et Fatima, c'est à vous l'antenne. Chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette émission La pêche aux infos. Que vous soyez pêcheur passionné ou bien tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Nous allons parler aujourd'hui de la pêche intensive et ses conséquences sur l'environnement marin. Donc nous allons accueillir pour ceci Fatima qui va nous rejoindre et répondre à nos questions. Bonjour Fatima.
Bonjour et merci de m'avoir invitée.
C'est avec plaisir. Donc Fatima, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des conséquences de la pêche intensive sur l'environnement marin.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous évoquer les effets de la pêche sur les stocks halieutiques ?
Alors, l'effet principal est la surpêche. Donc la surpêche se définit comme le cas où la biomasse de stocks de poissons est surexploitée. Donc la biomasse qui se définit comme l'état de santé des stocks halieutiques. Donc avec l'évolution de la pêche industrielle, on a pu apercevoir que cette dernière s'est divisée par 5 voire 10 fois au cours du XXe siècle.
Et donc, est-ce qu'il y a des facteurs qui empirent ?
Oui, en fait, on a pu noter qu'il y a une corrélation directe entre l'effort de pêche et la diminution des stocks halieutiques.
Excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est l'effort de pêche, s'il vous plaît ?
Donc, l'effort de pêche se définit comme le nombre de navires qui sont employés, le temps de pêche, leur puissance et leur efficacité. Donc, vu que l'effort de pêche augmente, les stocks de poissons ont de plus en plus de mal à se renouveler. Donc, elles sont en situation de surexploitation. Dans des cas extrêmes, ça peut amener à l'effondrement du stock, donc à la disparition de certaines espèces.
Et donc, est-ce que vous avez des exemples de ces espèces, justement ?
Oui, bien sûr. C'est le cas du cabillaud, qui est considéré comme menacé d'effondrement par l'ONG WWF à cause de la surexploitation de certaines de ces stocks.
Très bien. Merci Fatima. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous parler des émissions de CO2 qui sont liées à l'activité de la pêche, s'il vous plaît ?
Oui, il y a des émissions qui viennent des navires, donc qui emploient des énergies non renouvelables, mais aussi il y a l'émission des poissons qui n'est pas forcément comptabilisée. Il faut savoir que quand un poisson meurt, normalement, il émet du carbone qui, normalement, est gardé dans les fonds marins. Donc lorsqu'un poisson est capturé, ce carbone est relâché dans l'atmosphère.
Très bien, merci. Est-ce que vous avez éventuellement des chiffres qui permettraient de concrétiser un petit peu vos arguments ?
Oui. Alors, 1 kg de poisson pêché relâche à peu près 460 g de CO2. Donc on comptabilise à peu près 90 millions de tonnes de poissons pêchés dans le monde chaque année. Donc en faisant le calcul, en fait, ça équivaut à peu près aux émissions de 8 millions de vols aller-retour Paris-New York. Et ça considère à peu près un surplus de 25% sur les émissions totales de la pêche.
Très bien, merci. En effet, c'est énorme. Est-ce que vous auriez des solutions à nous proposer pour limiter justement cette pollution ?
L'État français considère que la décarbonation ou la décarbonisation comme étant la solution la plus réalisable en ce moment. Elle s'inscrit dans le cadre de la loi Climat et Résilience de 2021. Et il y a aussi une feuille de route sur cette dernière qui a été publiée. Donc la décarbonisation implique toute la filière maritime, mais il y a un focus sur les activités de pêche. Donc elle se concentre sur trois leviers principaux, l'efficacité énergétique, à travers l'éco-conception, la transition écologique, donc la transition énergétique, pardon, vers des énergies renouvelables, et la sobriété énergétique aussi à travers la baisse de la vitesse des navires.
Très bien, merci pour ces solutions évoquées. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la pollution en mer liée à ces activités de pêche, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Alors, le ministère de Transition écologique considère que 640 000 tonnes de déchets sont retrouvées chaque année dans la mer et ils sont issus des activités de pêche. Et on a fait le calcul et cela correspond à peu près au poids de 4 000 Airbus, donc ce qui est énorme. Et ça a un impact négatif sur l'environnement marin, mais aussi sur les oiseaux, par exemple, qui peuvent se retrouver coincés dans les filets de pêche. Un autre aspect à tenir en compte est le temps de dégradation de ces matières, donc qui peuvent, par exemple, le nylon met 600 ans pour se dégrader. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se penser à des solutions comme le recyclage ou la réutilisation de ces matériaux.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Fatima de nous avoir éclairé un petit peu plus sur les impacts de la pêche.
Merci à vous.
Donc on voit très bien qu'il y a des pratiques plus responsables à adopter en termes de pêche et la tendance croissante vers la pêche durable, pardon, en est un exemple significatif. On peut évoquer l'utilisation de bateaux de pêche plus petits et moins puissants qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou encore l'emploi de filets de mailles plus grandes pour les poissons qui sont de taille non réglementaire à la consommation. Qui leur permettrait de s'échapper, pardon, et d'avoir une baisse d'impact sur les stocks. Au niveau de la sphère législative, plusieurs quotas européens qui s'inscrivent dans la politique commune de pêche, la PCP, qui date de 2013, la dernière en date, et a été transposée dans le droit français en 2014. Cette réglementation, justement, limite la quantité de poissons qui peut être extraite de chaque stock, afin d'éviter l'effondrement des stocks et permet une gestion durable de cette dernière. On parle aussi de pêche artisanale ou de pêche à petite échelle, souvent côtière, qui utilise des engins de pêche dormants tels que les filets, les casiers ou les lignes, pour permettre d'arriver à une pêche un petit peu plus durable. Je te remercie Fatima pour ces explications. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À tout à l'heure, à vous les studios.
Bravo, bravo les filles. On est bien de retour en direct du colloque. Merci à vous pour cette belle présentation. La présentation suivante va être assurée par Monsieur Drouot, enseignant à l'UFR Ségat, qui va présenter le travail de ses étudiants sur l'approche socio-économique de la pêche en Normandie, ses étudiants étant déjà partis en stage aux quatre coins de la France.
Je reviens à une présentation universitaire, hein, désolé pour la transition. Donc Bruno Drouot, maître de conférence à l'UFR Ségat. Effectivement, les quatre étudiants qui ont travaillé sur la pêche en Normandie et notamment l'approche socio-économique, car ce sont des étudiants du master études socio-économiques et développement durable, dont je partage la responsabilité du M2 avec Cécile Le Corollaire. Ok, alors, dans le cadre de son travail, ils ont développé quatre axes. Le premier axe, c'est finalement un état des lieux sur la pêche en Normandie, un état des lieux économique et social. Le deuxième axe, c'est un axe qui porte sur la réflexion et la structuration d'un observatoire socio-économique des pêches et cultures marines en Normandie. Donc l'invitation est lancée à différents organismes de l'État ou scientifiques sur ce thème-là. Le troisième axe, c'est aussi un axe sur lequel on aura l'occasion de débattre tout à l'heure, une étude économique sur la labellisation des produits de la mer, mais là aussi en Normandie, barre de ligne de Normandie et coquille Saint-Jacques. Et un dernier axe qui est plutôt, qui a une portée moins économique mais davantage sur la gestion, qui porte sur la proposition d'un tableau de bord multidimensionnel. Ici, c'est de proposer finalement aux patrons pêcheurs un outil pour les aider à piloter leur organisation dans un environnement aussi incertain et un peu dans un environnement en crise permanente. Alors l'idée, voilà, parce qu'il va falloir faire court, on a 5 minutes, c'est simplement de vous donner quelques éléments sur le premier axe, c'est-à-dire l'état des lieux. Alors l'état des lieux, ce qu'il faut déjà rappeler, je pense qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné aujourd'hui, c'est quand même que la Normandie est la deuxième région de pêche, hein, après la Bretagne, bien évidemment. C'est environ 600 navires de pêche, 1600 marins. Alors on a du mal à s'entendre sur les données. Je vous ai mis la source de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Donc 1600 marins, alors en économie on fait attention, ce sont des, voilà, des personnes qui sont à temps plein ou bien des personnes qui sont voilà, à temps partiel. Et c'est 7000 emplois induits. Un emploi induit, c'est un emploi indirect, c'est-à-dire qu'on considère qu'un marin en mer, c'est 3-4 marins, 3-4 personnes qui travaillent à terre. Ok, donc on mesure finalement l'importance de la pêche en Normandie et on voit aussi qu'il y a un certain nombre de métiers. Un métier, c'est aussi une définition très claire. Un métier, c'est l'association d'un engin de pêche avec une espèce. Exemple, drague à coquille Saint-Jacques. L'engin, c'est la drague et l'espèce, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc les principaux métiers utilisés, drague de coquille Saint-Jacques, casier à bulot et chalut de fond. Donc on voit aussi toute la diversité en Normandie. Voilà, on pense à Granville, hein, pour les bulots. On pense effectivement Courseulles-sur-Mer pour Ambessin, pour la coquille Saint-Jacques. Et puis chalut de fond, voilà, un peu réparti à travers toute la Normandie. Alors, aussi, ce qu'il est important à noter, c'est effectivement ce que représentent en termes de chiffre d'affaires certaines espèces. Coquille Saint-Jacques, c'est à peu près 37%, bulot 17%, et on a d'autres poissons, voilà, qui sont sur une part beaucoup plus minime. Et puis, certains ports, Port-en-Bessin, un premier port en Normandie. Alors, cet état des lieux, finalement, nous permet aussi de voir quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté. Déjà, en Normandie, une des difficultés que l'on perçoit, c'est quand on voit l'importance de la pêche de la coquille Saint-Jacques. On n'est pas à l'abri d'une crise environnementale, d'une crise sanitaire, et on voit bien, finalement, que cela aura un impact très fort sur la Normandie. Ensuite, on sait qu'il y a un phénomène, bon, qu'on a beaucoup de mal à mesurer, que les scientifiques ont beaucoup de mal à mesurer, c'est finalement le réchauffement climatique, la modification des écosystèmes. C'est des discussions qui ressortent du terrain de la part des pêcheurs. Ils voient des comportements des espèces qui se déplacent, des espèces nouvelles qu'ils peuvent pêcher, mais pour effectivement réussir à mesurer tout ça, c'est assez difficile. Donc je parlais, voilà, des écosystèmes marins. Donc là, on est sur finalement des problèmes un peu de fond, hein, structurels. Quand on parle de modification des écosystèmes marins, quand on parle de dépendance à certaines espèces, voilà, vous voyez, je ne les ai pas tout à fait classées parce qu'on n'a pas réussi à le faire au niveau des difficultés rencontrées. Et puis, on a des difficultés qui sont des difficultés un peu structurelles. Hein, je pense qu'elles vont se résoudre. Exemple, par exemple, la dépendance au prix du gasoil. Voilà, c'est une problématique notamment pour tout ce qui est la drague et le chalut. Ou, par exemple, les conflits des droits de pêche post-Brexit, avec la difficulté, effectivement, pour certains marins d'obtenir des licences. Voilà. Ok, donc voilà pour ma présentation sur l'état des lieux, un axe, hein, sur les quatre, mais bien évidemment à l'écoute, hein, de chacun d'entre vous pour discuter des deux axes, voilà, que je vous ai présentés préalablement. Très bien, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Drouot, pour cette présentation. Merci également à vos étudiants qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui ont œuvré à ce travail. Pour la présentation suivante, je vais appeler les étudiants du Master LEA, experts en projets européens au service du développement local, qui vont nous faire une présentation sur le fait en pas.
Il y a pas de micro. Bonjour à tous, bonjour Victoire. Bonjour à tous, bonjour Victoire. Comme tu es spécialiste du FEAMPA, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en quoi ça consiste ?
Bonjour Marie. Alors oui, bien sûr, si on veut résumer le FEAMPA en quelques mots, donc c'est le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. C'est l'instrument financier de la politique commune de la pêche de l'Union européenne. Il est prévu pour une durée de 7 ans et il remplace, pour ceux qui l'ont connu, l'ancien FEAMP, donc Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
D'accord. On voit un peu mieux, mais plus concrètement, les objectifs de cette politique, c'est quoi exactement ?
Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion du FEAMPA, elle est partagée entre l'État et les régions. Et le FEAMPA se décline en plusieurs priorités, notamment tout ce qui concerne la pêche durable, la protection de la biodiversité, la valorisation des produits, le soutien de la petite pêche côtière, mais aussi l'aquaculture durable, etc.
D'accord. Ça fait plein d'objectifs de quoi satisfaire les intérêts de chacun. Mais financièrement parlant, on est au niveau de cette enveloppe du FEAMPA, on tourne autour de combien ?
Eh bien, l'enveloppe du FEAMPA est de 6 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Et il y a 567 millions d'euros qui sont dédiés à la France. Et les régions gèrent 57% de cette enveloppe, soit 322 millions d'euros.
D'accord. Et pour nous, les Normands, alors ?
Eh bien, pour la programmation actuelle, donc de 2021 à 2027, l'enveloppe de la Normandie est de 26 millions d'euros.
D'accord. Merci à l'Europe et merci pour toutes ces informations qui ne sont d'ailleurs pas tombées dans l'oreille de sourd puisque nous avons deux professionnels qui sont venus tout droit de Port-en-Bessin. Je vous présente Jean, pêcheur.
Eh bien, merci Marie. Bonjour, moi c'est Jean. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pêcheur depuis maintenant plus de 20 ans. Et j'ai une plutôt grosse activité, hein, effectivement. Néanmoins, celle-ci est menacée, puisque mon bateau se fait très très vieux, à tel point qu'un jour j'en ai bien peur. Je suis obligé de rentrer au port à la nage, ce qui serait dommageable. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que l'Union européenne pourrait faire pour moi, pour arranger ce petit désagrément quand même. Hein.
Eh bien, écoutez, Jean, grâce au FEAMPA, de nombreux projets pour les pêcheurs et les aquaculteurs sont financés au niveau régional et le fonctionnement est en réalité assez simple. Si vous voulez faire financer votre projet par le FEAMPA, vous êtes donc un porteur de projet et donc vous êtes en bas du schéma, juste là. Et donc vous pouvez faire votre demande auprès de la région Normandie qui vous aidera à monter votre projet. Elle soutient les professionnels, par exemple, jusqu'à 75 000 euros pour l'achat de navires de moins de 12 mètres. Et vous avez aussi la possibilité d'investir à bord de vos navires pour faciliter la gestion des captures ou assurer leur qualité.
Merci beaucoup, Victoire. Grâce à ça, je vais pouvoir avancer. Mais qu'en est-il de mes employés, hein ? Vous savez, la pénibilité du métier de pêcheur, c'est vraiment un vrai problème. Hein. Ils se plaignent de beaucoup de maux, hein, finalement, des mal de dos. C'est très physique, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?
Eh bien, écoutez, c'est le même principe. La région Normandie s'occupe dans le cadre du FEAMPA également de tous les projets qui concernent la sécurité et le confort à bord des navires.
Ah, merci beaucoup. Eh bien, si comme nous... Ah oui, bah oui.
Bonjour, moi c'est Marie Hubert, je suis originaire de Normandie et donc j'aime beaucoup la mer, j'aime me promener le long du littoral du Cotentin et donc j'y vois de nombreuses poches ostréicoles donc polluantes qui traînent le long des côtes et j'ai une idée, je voudrais faire de cet objet donc un objet robuste, esthétique et donc utile, des sacs. Est-ce que vous pourriez m'aider ?
Eh bien, tout à fait, puisque le FEAMPA est un véritable couteau suisse. Votre projet est de l'ordre de l'économie circulaire, et donc vous pouvez passer via des GALPA, puisque ce sont eux qui gèrent les projets à dimension locale, dans le domaine notamment de la communication, de l'attractivité, la promotion des métiers de la mer, et aussi dans le cadre de la gestion des déchets. Et donc il vous faudra vous adresser au GALPA le plus proche de votre site, et dans votre cas, du coup, dans la zone du Cotentin, ce sera le GALPA Presqu'île du Cotentin qui pourra vous aider à concrétiser votre beau projet.
D'accord, merci beaucoup.
Et donc je reprends. Si comme nous, vous avez un projet ou une idée à faire financer, eh bien n'hésitez pas à contacter le service Europe de la région Normandie qui saura vous orienter le plus habilement possible. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.
Merci à vous trois pour cette présentation, ma foi, fort théâtrale. Nous allons maintenant pouvoir passer au temps d'échange de cette séquence. Vous le savez maintenant, chaque séquence est suivie d'un temps d'échange. Je vais donc appeler Lénaïg qui va présenter ce temps d'échange. Lénaïg, c'est à toi.
Donc on se retrouve pour une nouvelle séquence, un nouveau temps d'échange, où je serai une nouvelle fois votre animatrice. Donc c'est sur la thématique de la pêche durable. Nous allons explorer différents aspects de ce sujet passionnant pendant les 25 prochaines minutes, en présence de nos intervenants qui nous apporteront leurs connaissances suite à leurs travaux. Voilà. Et donc permettez-moi de vous les présenter. De présenter nos 5 intervenants que j'appellerai au fur et à mesure. Donc, pour commencer, Bruno Drouot, maître de conférence en master études socio-économiques et développement durable, qui nous apporte donc les propos de ses étudiants du master CEGAT de l'université de Caen. Ensuite, j'appelle Chris, étudiant du master DDSC de l'université de Caen. De voir son groupe lors de l'émission télé. Ensuite, j'appelle Léa, étudiante du master expert en projet européen de l'Université de Caen, qui nous rejoint sur la thématique du fait en pas, présentée par son groupe et leur jeu de rôle. Et pour finir, pour continuer, Clara, étudiante du master concertation et territoire en transition de Sciences Po Rennes campus de Caen. Et pour finir, Charline, donc étudiante du PUT Carrière sociale, parcours ville et territoire durable de l'IUT d'Alençon. Je me prends juste une petite chaise parce qu'on est nombreux. Je vous invite à prendre un micro pour la suite. Et voilà. Et puis bien parler dans le micro, mais vous n'êtes pas obligé de vous pencher nécessairement. Donc déjà des constats sur vos études de cas sur le sujet de la pêche durable. À qui veut prendre la parole? Ne vous battez pas, surtout. Bah,
je vais commencer. Alors nous, on a vu dans notre étude de cas, on s'occupe du fait en pas en Normandie, mais en particulier sur l'attractivité de l'aquaculture. Donc on a vu que la pêche a été vraiment bien présente. On a plus de 600 km de côte avec de très beaux littoraux. Donc elle est là, elle est bien présente. Mais depuis la réforme de la politique commune de la pêche de 2013... Je parle pas assez fort.
Non,
c'est très bien. Merci. En fait, l'Union européenne, elle a mis plus en place et plus en avant l'aquaculture. Notamment, on connaît tous le Green Deal. Dans le Green Deal, il y a un programme qui s'appelle le Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette. Et dans ce Farm to Fork, c'est pour valoriser les produits, le bien-être animal, l'écologie, etc. Et dans ce Farm to Fork, il y a un secteur spécialisé pour l'aquaculture. Il n'y en a pas pour la pêche. Donc déjà, on se pose une première question. Au niveau de la France, je peux citer le plan d'aquaculture d'avenir. Donc rien déjà dans le nom. On voit très bien qu'il y a un envie de développement. Mais pas seulement la conchyliculture comme on connaît avec les huîtres, etc. Mais aussi pour du côté de la raniculture, pour les grenouilles, de l'algoculture avec les algues. Et donc tout ça, ça se répartit très bien dans les régions. Et en particulier la région Normandie, avec le FEAMP. Il faut savoir que pour le FEAMP, donc, comme l'a expliqué mes camarades, de 2014 à 2020, sur 300 dossiers financés, enfin, cofinancés, 197 étaient de l'aquaculture. Donc on voit déjà un gros développement sur ça.
Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir ou bien ajouter un constat sur la pêche durable?
Déjà, donc nous, on a pu voir que le concept de durabilité, c'était pas un concept qui était clair pour tout le monde.
c'était un peu ambigu. Donc pour les pêcheurs, ce qui était durable, c'était, enfin, la question de la durabilité, c'était plus envers leur métier. Est-ce que leur métier est durable dans le temps avec la raréfaction des ressources, les saisonnalités qui changent, etc. Et pour la population, elle, elle va plus s'inquiéter de la durabilité, bah, justement, des ressources. Et aussi, une inquiétude qu'ils pourraient avoir, c'est au niveau du coût de l'alimentation. C'est une inquiétude, est-ce que c'est durable ou pas de manger tous les jours du poisson dans son assiette ? Donc c'est un constat qu'on a pu faire, que la durabilité, c'était pas forcément un concept très clair et que tout le monde avait la même définition et la même, les mêmes idées de la durabilité de la pêche.
Très bien, merci. Vas-y Chris. Donc moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de justement présenter. Donc moi, je fais partie du groupe La Pêche aux Infos. Et on a fait une enquête de terrain auprès de consommateurs et même de pêcheurs dans deux marchés différents en Normandie. Et on a pu justement également remarquer que cette définition de pêche durable est très floue. La définition, même nous, quand on a fait nos recherches pour notre étude de cas et pour préparer ce colloque, on a pu, sur différents sites, voir une définition plus ou moins différente. Les critères pour définir la pêche durable ne sont pas à chaque fois équivalents. Excusez-moi. Nous avons également pu remarquer que les outils, donc il en existe de nombreux, sont souvent méconnus de la part de la scène publique. Donc, par exemple, les labels, donc, c'est l'un des premiers outils que l'on peut trouver pour définir la pêche durable pour les consommateurs. Leurs critères ne sont pas suffisamment transparents. Donc, on peut parler de deux labels en particulier. On a l'écolabel public pêche durable et le label privé MSC. Ces deux labels sont parmi... surtout le label MSC est l'un des plus omniprésents dans nos supermarchés. Si vous ne le connaissez pas, c'est celui avec le bleu, avec un poisson. Et on peut aller sur leur site et on ne va pas forcément comprendre les critères ou arriver à les trouver pour savoir comment est-ce que les poissons ou le produit a été vraiment qualifié de pêche durable. Donc on peut se poser justement la question de la pertinence de ces critères d'évaluation dans le contexte de la pêche durable. Donc voilà. Super, merci. Vas-y.
Alors, moi, en parallèle de la pêche durable, je vais plutôt insister sur la durabilité de l'activité de la pêche. Donc, je fais partie du groupe d'étudiants de Sciences Po qui avons fait une enquête sur le Cotentin, sur la transition énergétique en mer et la réception auprès des habitants et l'acceptabilité. Donc, évidemment, on ne pouvait pas échapper à la catégorie des pêcheurs. Donc, on a pu interroger quelques pêcheurs et des représentants d'organisations de pêche, ainsi que des élèves en filière pêche d'un lycée maritime dans le Cotentin. Et en fait, il en est ressorti ce constat de raréfaction des ressources, d'autant plus qu'en Normandie, il y a quand même une grosse tension sur les activités maritimes. Donc en parallèle de cette raréfaction des ressources, donc il est ressorti le fait que les pêcheurs armateurs, donc enfin les petits pêcheurs, en fait, ont de plus en plus de mal à atteindre les taux allouables de capture, qui sont donc un maximum imposé par l'Union européenne, que les pêcheurs ne doivent pas dépasser. Mais en fait, ces petits pêcheurs n'arrivent même pas à atteindre ces taux-là. Et depuis, ça fait plusieurs années qu'ils observent une réduction dans la disponibilité de ces ressources. Et en parallèle de ça, donc, en Normandie et notamment dans la Manche près du Cotentin, on a une compétition en fait, dans les différents usages, avec les usages industriels de la mer. On a d'une part la pêche industrielle, mais pas que. On a les extractions de granulats, comme on a pu en parler ce matin. Et aussi le développement des énergies marines renouvelables, qui vient réduire en fait les zones de pêche accessibles à ces pêcheurs. Et en plus de ça, il y a eu le Brexit qui a porté aussi un coup aux activités des pêcheurs normands, pêcheurs notamment artisanaux, et donc qui viennent porter un coup à l'activité dans le territoire.
Je te remercie. Oui, monsieur Bruno.
Je vais juste revenir sur le label. Le label, qu'est-ce que c'est ? C'est la rencontre finalement entre un producteur, un patron pêcheur et un consommateur. Le consommateur, finalement, déjà premièrement, il fait un premier choix pêche ou aquaculture. Quand il achète son poisson, voilà, j'étais pas plus tard qu'à Paris, voilà, au salon de l'agriculture, et j'ai vu sur des stands où maintenant on retrouve poisson de pêche, poisson d'aquaculture, mais bon, ok. Donc, première distinction. Ensuite, le consommateur, il attend un produit de qualité. Voilà, voilà. Par exemple, barre de ligne, à la ligne, on attend un poisson de qualité. Donc, deuxième point. Ensuite, il attend effectivement que ce poisson soit pêché durablement. Voilà. Et en voyant le label, c'est l'information qu'il a. Il pense que c'est pêché durablement. OK. Et de l'autre côté, on a un producteur qui, lui, s'il labellise, ça va lui coûter de l'argent. Et de ce fait, il attend une rémunération, quoi, une valorisation de sa production. Et puis, il veut communiquer sur son métier en disant qu'il a finalement des pratiques plus responsables que d'autres. Si vous pratiquez la pêche à la ligne, voilà, vous considérez que vous avez des pratiques plus responsables que la pêche au chalut. OK. Alors, on voit bien, finalement, le label, il va jouer son rôle d'informer le producteur, va informer le consommateur. Le problème qui se pose, c'est que, finalement, la ressource halieutique, le poisson, on est sur des ressources qui sont exploitées, trop exploitées, et on se retrouve dans des pêcheries qui sont, finalement, en très mauvais état. Et on prend la pêcherie du bar commun, elle est en extrême, voilà, extrême mauvais état, c'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses décisions qui ont été prises, et pourtant dans cette pêcherie, on a des ligneurs qui continuent à labelliser leurs poissons. Donc c'est assez, vous voyez, paradoxal, il y en a qui pratiquent une pêche responsable, mais cette pêche responsable au sein d'un métier, ligne de bar commun, n'est pas responsable par rapport à l'ensemble de la pêcherie, du fait qu'il y ait d'autres pêcheurs qui, voilà, ont aussi une activité à côté, le chalut, le filet ou autre, je ne tire pas dessus, mais de ce fait, c'est pas responsable, et le poisson, la course au poisson, ça, voilà, on court un peu à notre perte. Donc c'est avec la labellisation, il faut, voilà, il faut qu'on s'interroge en tant que consommateur sur pourquoi on va faire ce choix de labellisation. Le producteur, il sait pourquoi il le fait, mais c'est aussi à nous de nous renseigner effectivement sur la durabilité de la pêcherie ou non. Et un label, c'est pas forcément une pêcherie bien exploitée.
Je vous remercie. Peut-être une d'entre vous souhaite rebondir suite à ce constat ou pas de souci. Charline, tu as mentionné vos inquiétudes suite à vos travaux d'études. En effet, peut-être vous avez des inquiétudes à développer suite à vos travaux ou bien des interrogations qui sont peut-être toujours pas élucidées suite à vos travaux également. Je vous laisse la parole.
La principale inquiétude que va avoir la population, ça va être vraiment la raréfaction des ressources, donc notamment avec le réchauffement climatique. Les poissons, ils sont très peu sédentaires, donc ils vont beaucoup se déplacer, et donc ça va être compliqué de pouvoir, par exemple, établir des zones protégées pour pouvoir du coup essayer de protéger un maximum les poissons. Et donc du coup, les poissons vont se déplacer, donc ça veut dire que le pêcheur, son endroit où il va travailler, ça va être sa zone de commerce, elle va se déplacer, elle va changer. Et donc, ça va être très compliqué pour, d'une part, les pêcheurs et, d'une autre part, aussi pour nous de se dire est-ce qu'on aura toujours, par exemple, des poissons à cet endroit-là ? Parce que, du coup, les poissons, ils vont remonter, notamment dans les eaux les plus froides. Et du coup, il va y avoir aussi la saisonnalité qui va changer. Donc, les saisons vont changer. Les poissons vont plus se reproduire aux mêmes saisons. Ça va être aussi des périodes différentes. Du coup, il y a vraiment, je pense, un enjeu de comprendre tous ces changements pour pouvoir ensuite, par la suite, peut-être développer des zones protégées pour éviter de faire disparaître plus d'espèces qui en a déjà disparu.
Je te remercie. Si quelqu'un souhaite rebondir ou ajouter une inquiétude.
Eh bien, du coup, ajouter qu'en parallèle du réchauffement climatique, qui a certes déjà un gros impact sur la réduction des stocks, il y a aussi tous les usages qu'on fait de la mer. La compétition entre la pêche, une pêche responsable, et une pêche plus industrielle, peut-être plus destructrice, qui est un peu moins régulée à ce jour. Peut-être par la consommation, on peut travailler sur la pêche qu'on souhaite voir être développée et rester. Et donc qu'en parallèle de ces enjeux de préservation des stocks par l'activité de la pêche, il y a aussi tous les enjeux des impacts de l'anthropisation des littoraux, en tout cas sur notre territoire d'étude, le territoire du Cotentin, c'est une zone maritime qui est très, très dense, très exploitée. On a des routes commerciales, il y a les activités d'extraction, surtout le développement des énergies marines renouvelables, dont les impacts sont encore en étude. Donc tout ça, ça peut être des éléments d'inquiétude, notamment pour les pêcheurs. Et donc, c'est important dans ce cadre-là de bien réfléchir à la localisation de ces activités. Voilà.
Donc, moi, je vais essayer de rebondir justement sur les impacts. Donc, avec mon groupe d'études, nous avons remarqué surtout que certaines populations pouvaient être dépendantes de différents niveaux. Il y a certaines populations qui sont dépendantes au niveau alimentaire, des villages de pêcheurs qui particulièrement pratiquent la pêche artisanale et qui, face justement aux pêcheurs industriels, ne peuvent pas forcément faire face et finissent très souvent avec le peu de poissons ou de ressources halieutiques justement qui restent. Il y a également d'autres dépendances que seulement. Il y a des dépendances économiques, donc ça c'est plutôt sur nos côtes, par exemple, on va revenir sur notre zone du Cotentin, avec justement beaucoup d'emplois donc, pour les pêcheurs, et comme on l'a pu le voir, ce sont d'autres métiers, poissonnerie ou même des restaurants spécialisés et autres, qui sont liés à la pêche et donc aux ressources prélevées. Et ces métiers-là, avec la disparition justement de ces nombreuses ressources, peuvent être mis en péril.
Merci. Et du coup, cette demande de consommation de poissons qui deviendrait plus rare, de ce que j'ai entendu, ça pourrait être facilité par quoi ? Par quoi on peut remplacer cette pêche ? Bon, bah, moi, du coup, c'était l'aquaculture, mais... mais du coup, cette aquaculture, est-ce que ça répond réellement aux valeurs de ce qu'on veut, enfin, de ce qu'on voudrait ? Pour le bien-être animal, pour la pollution des eaux, etc. Et est-ce que les citoyens sont prêts à vraiment consommer des poissons d'élevage ? Parce que quand on achète, quand on va dans le rayon du supermarché et qu'on voit des saumons d'élevage ou des saumons sauvages, bah, on préfère acheter du saumon sauvage. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je sais pas pour vous. Mais du coup, est-ce que le citoyen est prêt à faire cette démarche de changement de consommation ?
Très bien, je te remercie. Monsieur Drou, vous voulez peut-être une remarque ?
Oui, c'est une problématique très complexe. On parle d'approche écosystémique des pêches, où finalement tout est interrelié et interdépendant. Donc on voit la modification des habitats, on voit le réchauffement climatique, on voit les espèces invasives. Hein. On pense à la crapidule, par exemple, pour la coquille Saint-Jacques. Donc, finalement, les pêcheurs sont en première ligne sur l'ensemble de ces problématiques. Et finalement, il y a, par rapport à tout ça, toujours plus ou moins des solutions. Mais comme je l'ai noté dans ma présentation, voilà, pour tous ceux qui sont sur la coquille Saint-Jacques, tous ceux qui sont sur le bulot, c'est... Ça peut être compliqué. Le bulot, avec le réchauffement des eaux, voilà, sa reproduction devient compliquée. Et donc, on voit les bulotiers, par exemple, au niveau de Barneville-Carteret jusqu'à Granville, qui sont dans une situation difficile. Et on suit ça assez simplement en regardant les quantités qu'ils débarquent chaque année, quoi.
Je vous remercie. Merci à vous tous. Et donc, suite à vos constats et inquiétudes que vous venez de nous partager, est-ce que vous auriez des suggestions ou solutions, peut-être un peu ambitieux, mais des suggestions en tout cas possibles selon vous sur la pêche durable ?
Alors, pour moi, notre étude de cas en tout cas, pour continuer à avoir une pêche durable, il faudrait apporter du soutien aux professionnels, aux pêcheurs, aux professionnels. Vers une transition verte de la filière. Je pense notamment à la neutralité carbone, dont le Féampa aussi. Le Féampa en fait la promotion.
la neutralité carbone, la, remettre des moteurs, enfin refaire des recherches sur les moteurs et en remettre qui fonctionnent mieux et avec et moins énergivore. Je pense aussi à mettre en relation les pêcheurs et les entreprises, par exemple pour la revalorisation des déchets. Les filets, on peut en faire plein de choses. Des poches ostréicoles, comme vous l'avez pu voir, on peut en faire des sacs, des paniers à linge. Donc ça pourrait être aussi un point d'accroche. Et enfin, ce que je pense vraiment du fond du cœur, c'est que les pêcheurs devraient être plus au courant des fonds auxquels ils peuvent accéder. Par exemple, nous avons beaucoup travaillé avec des gens de la région et des animatrices Galpa qui nous disaient qu'ils ont une enveloppe, une belle enveloppe quand même, mais très peu de porteurs de projets. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est un truc à relancer, à revigorer.
Je te remercie. Je vais prendre une dernière personne, le temps court, sur des suggestions que vous voulez partager. Voilà,
Oui, je pense que finalement, pour préserver la pêche, et voilà, on attend peut-être un peu plus d'interventionnisme public, c'est-à-dire fixer davantage de règles pour protéger nos pêcheurs artisans. Quoi. Donc, je pense que voilà, on voit ce bateau de pêche industrielle à Saint-Malo, voilà, de plus de 120, 130 mètres. Je pense que ce qu'il faut, c'est voilà, pour la pêche artisanale, c'est fixer des règles. Encore plus de règles, les protéger. Voilà, il y a un certain nombre de pêches qui se pratiquent. Voilà, la pêche à la ligne du bar, peut-être qu'on n'a pas besoin de chaluter sur les frayères, voilà, avec des chaluts en bœuf du bar commun. Laissons les pêcheurs artisans, qui font la ligne, essayer de prospérer. L'idée, c'est quand même que ces patrons pêcheurs, quand on les rencontre, ils veulent vivre de leur métier, ils veulent en vivre bien. Et finalement, on voit bien que autant certains, voilà, quand ils voient l'ensemble des normes peser sur eux, je ne parle pas de la pêche ou d'autres, cela peut être pesant pour eux. Mais pour les pêcheurs artisans, quand on va à leur rencontre, ce qu'ils veulent, c'est quand même que certaines pratiques de pêche, certains sont innovants. Hein, la pêche électrique se pratique dans certains pays qui ne sont pas très lointains de notre région normande. Donc voilà, il faut plus de règles.
Merci. Merci à vous tous. Notre temps d'échange est terminé et je vais me tourner vers la salle pour un temps d'échange de questions. Donc voilà, comme tout à l'heure, si vous avez une question, un constat, peu importe, je vous invite à prendre le micro avec ma collègue Emma, merci, et puis à ne pas oublier de mentionner votre fonction avant de parler.
Oui, donc à nouveau Caroline Pizarre à la Direction interrégionale de la mer. Il y a un sujet que vous n'avez pas du tout évoqué, c'est l'adaptation des pêcheurs par la diversification des métiers. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu dans vos échanges avec les différents intervenants que vous avez pu rencontrer ?
Alors, je peux répondre. Dans le cadre de notre enquête, effectivement, on a fait quelques entretiens, notamment avec un pêcheur armateur qui nous a évoqué que lui-même commençait en fait à avoir une activité à côté de son activité de pêcheur parce que son activité de pêcheur ne le permet plus en fait. Ne lui suffit plus économiquement. Donc, par exemple, en parallèle de son activité de pêcheur, il fait des prélèvements marins pour l'université. C'est un exemple qui est revenu. Et c'est revenu aussi auprès des lycéens en filière pêche qui nous ont évoqué en fait, le fait qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir à l'avenir vivre de leur activité à plein temps. Voilà, donc c'est une inquiétude qui est dans les esprits. Dans les pêcheurs, on a pu remarquer ça.
Merci. Oui, monsieur, je vous écoute.
Bonjour, Gabriel Aronica, je travaille à la préfecture de région Normandie. D'abord, un grand merci pour ces éléments et ces éclairages qui sont très complet, très enrichissant. J'avais une question, une interrogation qui porte plus précisément sur les moyens et les outils de contrôle de la réglementation qui est déjà en place. Vous avez évoqué les taux admissibles de capture, la préservation des stocks, les quotas. Qu'est-ce qui est mis en place concrètement et opérationnellement aujourd'hui pour contrôler cette réglementation et ces moyens sont-ils efficaces, suffisamment efficaces? Merci.
Si quelqu'un souhaite répondre au sein de la table, je vous invite à prendre le micro juste ici.
Voilà une question bien ardue. C'est compliqué d'y répondre. Il y a de nombreux travaux là-dessus. Même je vois des collègues qui ont travaillé à l'OCDE, notamment quoi, sur les moyens de contrôle. On est effectivement assez fort pour réfléchir sur des mesures de gestion que l'on peut proposer, qui sont extrêmement diverses et développées voilà, en sciences économiques. Après, le contrôle des navires de pêche, voilà, sur aussi bien leur capture que leur débarquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué et on pourra en parler longuement. Voilà.
Je vous remercie. Peut-être au sein de la salle, quelqu'un souhaite rebondir sur cette question, monsieur ?
C'est un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être posé comme question, mais je vais faire un commentaire avant. Il a été dit qu'effectivement, aujourd'hui, on était plus
vous
dans
une... Vous avez juste à vous présenter avant, excusez-moi.
Jean-Claude Dauvin, professeur émérite à l'Université de Caen, UMR M2C. L'approche écosystémique des pêches, c'est quelque chose que j'ai connu, moi, quand j'étais étudiant. On travaillait sur le recrutement des pêches quand c'était la taille marchande. Donc ça a bien changé. N'oubliez pas qu'on voit des changements d'espèces qui disparaissent, d'espèces qui apparaissent. Donc sous la prise du changement climatique, mais il y a aussi quelque chose qui n'a pas été évoqué depuis ce matin, c'est les cascades trophiques. Donc quand j'étais directeur de la station marine de Vimereux, près de Boulogne-sur-Mer, j'avais un jeune collègue qui travaillait sur la disparition de la morue dans la Manche Est, et en fin de compte, il y avait aussi, avant d'être grand, on est petit, et en particulier une larve, et il faut que la taille de la bouche de la larve du cabillaud soit compatible avec sa proie. Donc ces aspects cascades sont extrêmement importants. Donc ça, c'est mon commentaire. Ma question, là, par rapport à ces nécessités d'application européenne, des contrôles, etc., quelle est la part du comité régional des pêches et des pêcheurs locaux comme force de proposition pour voir comment ils peuvent résister à une pêche industrielle dont ils sont un peu aussi victimes? N'oublions pas que la diminution des espèces, et en particulier des grands oiseaux pélagiques comme le fou de Bassan, sont victimes de la pêche industrielle, puisque ça pêche des poissons pélagiques qui sont à la base de la consommation des oiseaux. Donc on retrouve aussi cette notion de cascade trophique. En clair, comment on peut agir localement et comment les pêcheurs normands peuvent être force de proposition?
Je vous remercie, monsieur. En effet, les étudiants ont un temps à partie pour présenter leurs travaux. Je vous invite à lire les études de cas qui seront remontées à la suite. Mais voilà, en attendant, qui souhaite répondre à cette question? Ou bien dans la salle hein? Non, monsieur.
Je pourrais répondre. Ah.
Oui, merci pour votre question. Finalement, cette problématique-là, je dirais, espèces marines à côté, oiseaux, tout ça, c'est des problématiques sur lesquelles on travaille aussi de nombreuses années. Moi, j'ai travaillé dans le golfe du Morbihan, par exemple, sur les zones multi-usages. Comment on fait pour concilier sur un espace des pêcheurs de loisirs, des pêcheurs professionnels multi-activités, avec, par exemple, des bernaches crabants qui viennent hiberner sur ces zones-là. Donc, c'est finalement aussi par rapport à une remarque qui a été faite ce matin, c'est de la concertation, c'est de la discussion avec les différents acteurs. Mais je vous cache pas que c'est compliqué. Voilà, en tant que scientifique, vous savez que mettre autour de la table, des personnes avec des sensibilités différentes, c'est extrêmement compliqué. Après, c'est là aussi où finalement on se rend compte que les décisions, c'est les pouvoirs publics. C'est les pouvoirs publics qui tranchent. On voit ce qui se passe actuellement dans le golfe de Gascogne. Voilà. Les dauphins, voilà, capture accidentelle de dauphins. J'en entends parler, j'étais à l'Ifremer à cette époque-là, au début des années 2000. J'étais avec Yannis Souami, qui donc a créé l'entreprise Ciné, voilà, qui est implantée dans le Calvados, voilà, que je connais bien. Ça, voilà, on était ensemble. Il a commencé à travailler avec Yvon Morizur, un biologiste, sur justement les pingers, pour essayer de prévenir, voilà, c'est des répulsifs à dauphins. Quoi, voilà. On voit que 20 ans après, on en est, voilà, on en est encore là avec des décisions fortes. Mais c'est en gros ce que j'ai envie de dire, c'est que concernant la pêche, l'approche écosystémique, quoi, c'est compliqué. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'usagers. Et même nous, en tant que scientifiques, c'est un peu la remarque que vous avez faite ce matin, monsieur, qui était tout juste, très juste, à quoi quand n'était pas là. Et finalement, on en est là, c'est que même dans nos travaux, on se dit qui faut associer. Voilà, c'est, voilà, par exemple, l'idée de partie prenante. Cécile qui lève la main. L'idée de partie prenante, c'est finalement, quelles sont toutes les personnes que... On doit associer, mais c'est compliqué.
Je vous remercie. Oui.
Il faut rendre le micro.
Moi, j'ai Cécile Le Corollaire, donc universitaire. Ici, je suis plus développement durable et économie sociale et solidaire. Et du coup, je voudrais faire une remarque à ce propos-là et aussi m'étonner quand même que quelqu'un qui travaille à la préfecture ne soit pas au courant des méthodes de contrôle. Je suis désolée, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc voilà. Et puis, du coup, évoquer le côté plus économie sociale et solidaire et dire qu'en fait, il y a des associations qui... L'autocontrôle, en fait, ça existe, en fait. Sont les pêcheurs qui sont les mieux à même d'évaluer les incidences sur la nature, la diminution des ressources, sont eux qui voient au quotidien. Donc, eux, ils sont les mieux informés. Et donc, il y en a quand même un certain nombre. On peut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Moi, j'ai un peu tendance à voir le verre à moitié plein. Mais il y a quand même des associations, notamment l'association des pêcheurs de bar à la ligne en Bretagne, qui a inspiré les Normands, qui s'auto-régulent. C'est-à-dire, en matière de développement durable, il y a aussi des initiatives citoyennes qui font que on n'attend plus forcément qu'il y ait une régulation publique. Et par exemple, en Bretagne, les pêcheurs de bar à la ligne, ils ont décidé de ne pas, réunis sous forme d'association, ce qui fait qu'il y a plus, il y a plus de coopération, moins de concurrence. Ils ont décidé, 10 ans avant que ce soit imposé par l'Europe, ils ont décidé de ne pas pêcher pendant les périodes de reproduction. Donc ça existe, les consommateurs, les producteurs, les pêcheurs, citoyens, responsables qui s'auto-régulent, ça existe. Et il y a de belles réussites, je voulais le souligner.
Je vous remercie pour votre constat. C'était une question en connaissance de cause, je pense. Très bien. Quelqu'un d'autre dans la salle qui souhaite peut-être en haut, monsieur ? Monsieur ici.
Merci beaucoup. Du coup, moi, c'est Noé Daï, étudiant à l'UT d'Alençon. J'avais une question concernant les aides européennes. Parce que vous nous avez dit qu'il y avait des enveloppes assez conséquentes. Moi, j'aimerais savoir à peu près combien ce serait à peu près une fourchette, parce qu'on a pu rencontrer des pêcheurs au Havre il y a quelques mois de cela. Ils nous ont dit un change, parce qu'en fait, ils sont poussés par l'État, l'Europe, à changer les systèmes de moteurs sur leur chalutier. Je crois que le pêcheur qu'on a rencontré, c'était 15 mètres, c'était plus €1 million pour changer le système de motorisation. Les biocarburants qu'ils souhaitent, qu'on leur pousse à consommer, c'est entre 4 et 6 euros contre 1 euro pour du gasoil. Donc, est-ce que les subventions que vous proposez, en sachant que c'est quasiment... c'est beaucoup d'emplois dans Normandie, est-ce que ça subvient de manière adéquate ou pas du tout, en fait ?
Je vous remercie pour votre question. Léa, je pense que...
Oui.
Tu peux répondre.
Je peux t'appuyer. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas assez de porteurs de projets pour que... Donc, en fait, c'est souvent les mêmes porteurs de projets qui reviennent. Et c'est pour cela qu'on invite justement les pêcheurs à se présenter, même si c'est assez compliqué. administrativement, mais la région et les GALPA sont en soutien. Par contre, l'enveloppe, Victor, tu peux redire l'enveloppe Alors, c'était 26 millions d'euros pour la Normandie. Par, 567 millions, je crois, pour la
567
France.
Pour la France, ouais.
Voilà.
C'est du cofinancement.
Oui. Oui, tout à fait.
C'est juste qu'on avait un temps à partir, donc on n'a pas
millions d'euros.
Je vous remercie. Super, je vous remercie. Le monsieur au fond de la salle, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'était vous ce matin, donc super, comme ça vous pouvez poser votre question.
Oui, donc Jean-Pierre Renard, juste un citoyen, mais c'est suffisant. Hein. Oui, je voudrais un peu prolonger ce que je disais ce matin quand vous m'avez, lorsque vous m'avez dit que j'avais trop anticipé. À propos de cette dichotomie complète hein, entre la pêche artisanale et la pêche industrielle, il y a encore eu une interview par l'ami Erner sur France Culture en début de semaine. Et ça mettait complètement en cause, bien, avec sa grande objectivité, hein, je tiens à le dire, mais ça mettait en cause véritablement la pêche industrielle. Alors, me semble-t-il, il y aurait quand même une solution, parce qu'il faut bien en trouver une. Et je ne sais pas qui d'entre vous a parlé de l'Observatoire socio-économique des pêches et cultures marines en Normandie. Alors, est-ce que c'est un organisme qui existe ? À ma connaissance, non. Et donc, ben, créons-le. Et vous qui êtes jeune et qui a, je suppose que à la fin de cette journée et les jours ultérieurs, vous allez, me semble-t-il, déposer un cahier d'acteurs. Mais vous, vous avez la jeunesse avec vous. Est-ce que nous, on n'a pas tout à fait encore obtenu ? On a l'espoir à travers vous. Ça vous fait rire ? En tout cas, non, il faut toujours croire hein, à cette jeunesse qui est formidable. Moi, j'ai travaillé comme vous à l'université, mais je vois que vous êtes tous extrêmement férus de ce que vous présentez. Et donc, allez-y dans ce cahier d'acteurs. Et un dernier conseil. Lorsque vous déposez ce cahier d'acteurs, Dieu sait si dans ma vie, j'en ai déposé un paquet. C'est pas grave. Même si ça, parfois, aboutit à pas grand-chose, ça fait rien. Il faut s'exprimer. Et demander les suites de votre cahier d'acteurs. Et vérifier que les mesures qui ont été prises nationalement, ça correspond quand même à ce que vous avez déposé comme suggestion. C'est très important, parce que les politiques que l'on a, c'est ceux que l'on mérite.
Je vous remercie, monsieur, et on prend note. Peut-être quelqu'un un mot sur l'organisme que monsieur a mentionné, ou bien on peut passer à une autre question. Madame, juste ici...
C'est une autre question, vous m'entendez ?
Vous pouvez parler peut-être plus fort et vous présenter, s'il vous plaît.
Marie-Christine Neuzin, donc je suis résidente à Ouistreham, en Normandie, et j'ai été précédemment magistrat administratif et je m'interrogeais sur un article du Code de l'environnement qui fait débat pour savoir s'il était appliqué en Normandie. Alors c'est une transposition de la directive Habitat, ça concerne les zones Natura 2000 en mer,
plus près du micro, s'il vous plaît.
Et, il a été prévu dans cette transposition, donc dans le Code de l'environnement, pour citer, c'est le L214-4-2 bis, il a été prévu une analyse des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de pêche maritime professionnelle. J'ai constaté que dans le golfe de Gascogne, aucune, absolument aucune, depuis 8 ans, que cet article existe, aucune étude n'avait été réalisée. Je me pose la question pour la région normande. Est-ce que ces études qui sont obligatoires et qui sont préalables à toute autorisation dérogation de pêche et à tout arrêté que prennent les préfectures pour la pêche ont été réalisées dans la région Normandie ? Peut-être que le monsieur représentant la préfecture pourra me répondre. Je vous remercie.
Je vous remercie, madame. Donc oui, je vais directement me tourner vers le public et peut-être une personne de l'État ou de la comité scientifique. Allez-y, monsieur.
Oui, donc Laurent Dumont, l'Adréal Normandie, et sauf Gabriel, si tu veux répondre.
Mais... donc pour resituer le sujet, donc effectivement, la directive impose en fait aux États de n'autoriser les activités dans les fameuses aires marines protégées que dès lors qu'elles ne compromettent pas les objectifs de conservation. Voilà. Ça s'appelle une évaluation des incidences pour tout le monde, sauf pour les métiers de pêche maritime, où il y a deux choses en fait qu'il faut prendre en compte. Un, il a été avancé qu'il y avait deux obligations européennes différentes, le règlement PCP, politique commune des pêches, et la directive, et qu'on ne pouvait pas tout à fait savoir, enfin, il ne nous appartenait pas de savoir lequel était prioritaire sur l'autre. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est que imposer à chaque navire de faire une évaluation individuelle, bon, on comprend que ça ne marche pas. Et en fait, cette analyse de risque des atteintes, d'atteinte aux objectifs de conservation, elle vient de là. Voilà, donc ça, c'est débat en cours entre la République française et l'Union européenne qui se débrouille. Voilà. Et une fois qu'on est rendu avec le droit français strict qu'on essaye d'appliquer, et en fait, on est sur des calendriers de. Donc, quand il n'y a pas de document de gestion, c'est à l'élaboration du document de gestion. On vient de l'avoir, par exemple, on a eu l'approbation là maintenant de baie de Seine orientale et de littoral Augeron. L'analyse de risque pêche, en résumé, pardon, elle a été faite à l'occasion de l'élaboration. Pour les deux COB un peu plus anciens qui étaient approuvés, on va les mettre les uns après les autres en révision. Dans le calendrier normand, 23 sites exclusivement marins, 11 sites comportant une partie marine, ça fait un certain nombre d'analyses de risque à faire. Et alors, très franchement, c'est un indicateur sur lequel on est surveillé, mais il reste du boulot. C'est-à-dire que si on en a 6 ou 7 sur 25 à peu près, peut-être 10, mais c'est du boulot. Et l'autre élément qui est hyper contesté, qui est hyper contestable et qui est hyper discutable, c'est sur quelle base et quels éléments on prend pour faire ces analyses.
Je vais vous inviter à finir.
Eh ben, oui, c'est fait, mais à la vitesse qu'on peut.
Merci, merci monsieur. Et merci madame. Le temps. Alors, malheureusement, le temps d'échange est fini. Je vous invite à une dernière. Bon, bah, une dernière. Vous avez de la chance.
Ben, effectivement, tout ce que vous expliquez, ça a l'air extrêmement complexe. Donc, il y a une solution qui paraît relativement simple et qui répondrait aux objectifs de la directive Habitat. Ce serait de supprimer la pêche maritime professionnelle, du moins au chalut, dans les zones Habitat 2000. Est-ce que cette hypothèse a été étudiée par la France ?
Bon, je pense que j'invite monsieur à reprendre... Non ? Quelqu'un d'autre ? Ce sera juste en bas, alors.
En fait, ça revient à une question que j'avais posée ce matin. C'est le... Dans la mesure où on envisage une protection stricte d'une zone, ça implique donc la cessation d'une activité, ça a des impacts socio-économiques. Donc oui, ça a été étudié dans un certain nombre de cas, clairement. Maintenant, est-ce que le public, est-ce que tous les publics, y compris vous, vous êtes prêts aujourd'hui à sacrifier une part de votre consommation pour ça ? C'est, la question, elle est simplement là, en fait. Et l'acceptabilité, c'est ça.
Je vous remercie.
Je rappelle juste, à titre d'information, qu'aujourd'hui, un Français consomme environ 33 kg de poisson et un Européen environ 24 kg. Voilà. Donc, tout est en jeu de conciliation et d'équilibre.
Merci. Je laisse une dernière remarque à une étudiante pour un mot de la fin pour les étudiants.
Oui, c'est pour réagir à ce qui vient d'être dit par la personne. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom, je suis désolée. Je parle pas. Là, je parle dans le micro. Ouais, okay, pardon. Sur la question de l'acceptabilité et de savoir est-ce que les gens sont prêts à l'accepter ou pas, est-ce que la question, c'est pas plutôt, est-ce que c'est pas à l'État de prendre certaines décisions fortes à ce niveau-là et de pas attendre ? On sait que notre gouvernement est capable d'imposer des décisions hein, contre lesquelles les citoyens sont tout à fait en désaccord. Donc, sur les questions de la biodiversité et qui vont concerner notre survie et la qualité de vie des populations futures, est-ce que c'est pas au gouvernement en fait d'imposer à un moment des décisions et de prendre ses responsabilités ? Voilà.
Merci beaucoup et merci à tous. Merci à nos étudiants également pour vos constats et merci d'avoir nourri.